La question était pétrie d'angoisse. C'était la question au bas d'un dessin humoristique où je voyais deux personnages qui chacun tenait une rame à la main. Et ceci au moment précis où leur toute petite barque avançait à la verticale d'une impressionnante chute d'eau. Alors avant de tomber, la question que l'un posait ainsi à l'autre, c'était « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On prie ou on rame ? On prie ou on rame ?» Évidemment, l'urgence de la situation ne laissait pas place à l'hésitation. Et dans la vie, il est des moments où il n'y a pas à hésiter non plus. Il faut réagir au plus vite. Mais habituellement, dans nos journées à nous, on a le plus souvent le temps de voir venir, c'est vrai, et de faire ce qu'il faut, alors qu'il est encore temps. Alors, prier ou ramer? Eh bien, les deux. Prier et ramer. Car pour résoudre un problème, il faut aussi avoir la lucidité, le courage spirituel de le poser. Je veux dire de s'arrêter et de prier pour le déposer devant Dieu, notre Père, qui nous écoute et qui prend soin de ses enfants. Alors, mes amis, quand on m'a demandé de traiter du thème « Conversation avec une intelligence artificielle » et pourquoi la prière lui est supérieure, je vous avoue que cela m'a surpris et j'ai essayé de comprendre. Ce d'autant qu'il y a quelques jours, en récompensant les chercheurs Hinton et Upfield pour leurs travaux sur les réseaux de neurones et les algorithmes, le comité du prix Nobel de physique a choisi de mettre l'intelligence artificielle et son apport sous le feu des projecteurs. Et j'ai écouté très attentivement ce qu'en disait Yann LeCun, le grand spécialiste de l'intelligence artificielle. Mais je n'ai pas été plus avancé. J'ai ouvert mon dictionnaire, le petit Thierry en deux volumes. Je n'y ai rien trouvé. Alors j'ai bien dû me résoudre à consulter l'Encyclopédie informatique, éditée, je crois, par notre frère Christophe Verba. Ce que j'ai compris, c'est que dans un monde de plus en plus dominé par la technologie, où l'intelligence artificielle précisément joue un rôle croissant dans nos vies, il est crucial d'explorer les dimensions spirituelles spécifiques à notre humanité. Ainsi, la prière comme pratique spirituelle des chrétiens revêt en effet une importance unique et irremplaçable. Et cela parce que la prière, je le dis d'emblée, est un acte de confiance et d'humilité qui nous permet d'établir une relation intime avec Dieu. Contrairement à l'intelligence artificielle qui est une création humaine, la prière est un dialogue spirituel où chacun peut communiquer avec notre Dieu, recherchant auprès de lui aide et soutien, guidance et réconfort. Il est clair que cette connexion, si je puis dire, va au-delà des algorithmes et des données statistiques que redonne et que nourrit la machine. Elle touche la prière à l'essentiel même de notre spiritualité humaine. Et cela n'a rien à voir avec l'optimisme. Alors permettez-moi une petite digression. Chaque jour que Dieu fait, on nous met en avant des personnes qui veulent nous apprendre comment transformer les adversités en changeant simplement d'attitude vis-à-vis de ce que nous ne pouvons pas changer. Et tous ont une chose en commun, ils sont reconnaissants, heureux et surtout optimistes. En fait, ces trois caractéristiques n'en font qu'une. Ils sont heureux sur tous les plans imaginables grâce, disent-ils, à une attitude positive devant la réalité, grâce à leurs bonnes intentions. Mais il faut le dire haut et fort, les pensées positives n'ont pas le moindre pouvoir sur ce qui nous arrive. Et il ne s'agit en rien de comparable avec ce que la médecine appelle l'effet placebo. Alors, j'en ai un peu ras la casquette des gens qui, au fond, ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et à ce propos, on peut affirmer que l'optimiste choisit d'espérer le meilleur en s'enivrant en quelque sorte de pensées magiques et en imaginant un avenir merveilleux. Et dire à contrario que le pessimiste, lui, traverse la souffrance en espérant que les choses s'amélioreront. Mes amis, on le sait tous, la vie est faite d'incertitudes. Ce n'est peut-être qu'en l'acceptant que l'on passe de l'enfance à la maturité spirituelle. Dès lors, maintenant, revenons à notre sujet. Pour nous chrétiens, la prière est donc une expression essentielle de notre foi, qui exprime notre confiance dans le Dieu de Jésus-Christ, en son amour et en sa sagesse, en sa bienveillance et en sa bonté. Dans la prière, tout simplement, nous confions nos préoccupations, nos peines et nos joies avec nos mots à un Père qui nous connaît personnellement. Or, l'intelligence artificielle, bien qu'elle puisse analyser des émotions et des situations, ne peut offrir cette compréhension personnelle, car elle n'en partage en rien la nature spirituelle. C'est une machine qui nous parle. Et puis, la prière procure un réconfort inestimable face aux épreuves de la vie. Et les chrétiens, réalisant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte du fait qu'ils peuvent remettre leurs soucis entre les mains de Dieu. Cela ne peut évidemment pas être reproduit par l'intelligence artificielle qui ne peut pas offrir de véritables émotions ou un soutien spirituel, même si, c'est vrai, elle peut fournir des conseils basés sur des données, mais qui jamais ne remplaceront le pardon, la paix, la libération émotionnelle et spirituelle que la prière peut apporter. Et quand elle est pratiquée en communauté, la prière renforce le lien fraternel entre les membres, le culte, un groupe de prière, une retraite spirituelle, permettent de renforcer cette solidarité et l'unité au sein de la communauté chrétienne. Ainsi, la prière favorise ce sentiment de solidarité parmi les chrétiens qui crée un environnement où on peut partager ses défis, ses succès. Faut-il encore ajouter que dans des moments d'épreuve, de crise personnelle ou de doute, la prière offre une voie de retour vers le Seigneur et l'espérance. Les chrétiens peuvent poser leurs questions, chercher des réponses et expérimenter la guérison spirituelle à travers la prière. L'intelligence artificielle, bien qu'elle puisse offrir des faits, des possibilités, ne peut pas réparer les blessures spirituelles ou guider une personne à travers le parcours de la foi. Enfin, je précise encore que la prière incite souvent à l'action sociale et à la justice. Elle peut inspirer les chrétiens à s'engager activement pour apporter des changements positifs inspirés de l'Évangile. Mais l'intelligence artificielle, même en fournissant des solutions orientées vers l'action, ne peut remplacer cette motivation spirituelle qui pousse les individus à agir par amour et dans la foi. Maintenant, Comment alors prier et ramer, comme j'en parlais avant, pour concrétiser tout cela? Eh bien, abordons brièvement le Notre Père. Il est en Matthieu 6, versets 9 à 13, qui n'est pas simplement à réciter, mais qui est notre modèle de prière. Il est en effet formé de 7 demandes. 3 concernent notre relation à Dieu et 4 concernent nos relations avec les autres. 7 étant le nombre de la perfection de la création, 3 étant le nombre divin par excellence, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et 4 le nombre du terrestre. Ce qui est remarquable dans le Notre Père, c'est qu'il commence justement par les premiers commandements concernant Dieu lui-même. Trop souvent, nous l'oublions et nous nous précipitons pour réclamer à Dieu quantité de choses. Il est donc bien de commencer par nous préoccuper de Dieu et de notre relation à Dieu avant de se préoccuper de soi-même. Dans les 10 commandements, le décalogue. De même, les premiers commandements concernent Dieu lui-même. Ceux concernant seulement les hommes viennent ensuite. Alors, abordons brièvement le Notre Père. Notre. Eh bien, la première particularité surprenante de cette prière, c'est qu'elle est entièrement à la première personne du pluriel. Elle ne dit pas « Mon Père, donne-moi ceci ou cela », mais « Notre Père, donne-nous ». Eh bien, tous les chrétiens sont unis dans cette prière. Il y a une communion de tous ceux qui reconnaissent Dieu pour leur Père. Et l'amour pour Dieu, qui s'exprime dans le Notre Père, ne peut être dissocié de l'amour des autres. Oui, Notre Père, la notion du Dieu Père se trouve déjà, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, comme dans le psaume 103, par exemple. Mais Jésus a généralisé cet usage et y a accordé une importance centrale. Appeler Dieu Père est en soi révélateur de toute une théologie. C'est affirmer un certain nombre de choses essentielles sur Dieu et sur son rapport avec nous, et sur le rapport qu'il veut établir avec nous. Appeler Dieu Père est dire tout simplement qu'il est notre Créateur et qu'il est à l'origine de la vie. Il est aussi celui qui est à l'œuvre dans la nouvelle création, qu'il opère par son esprit vivifiant qui agit en nous, qu'il est la source de la vie nouvelle qu'il veut faire grandir en nous. Et puis, son rôle de père est aussi de donner la loi, à savoir les règles de vie qui structurent le développement et la croissance de l'enfant et de chaque être humain, en lui imposant des limites, en lui disant ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Enfin et surtout, son amour comme père pour ses enfants est inconditionnel. Il nous aime non pas parce que nous pourrions faire preuve de qualité ou de mérite, mais parce que nous sommes ses enfants et qu'il nous reconnaît comme tels. Alors notre Père qui est aux cieux. Le Dieu dans lequel nous croyons se trouve au ciel, et dans la Bible, la terre est le monde matériel, le domaine des choses, des objets, du visible, et le ciel, symboliquement, est le domaine de l'invisible, de l'inatteignable. Alors aujourd'hui, nous pourrions dire « Notre Père qui est au-delà de tout ». Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Dans la Bible, le nom représente la personne elle-même, et ici, il nous est demandé de sanctifier le nom de Dieu. Cela signifie tout simplement le reconnaître comme tel, le respecter par une juste attitude à son égard dans notre vie, lui le Seigneur. Ainsi, quand il est dit dans le Décalogue, les 10 paroles, « Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. » Sanctifier consiste à se préoccuper d'autre chose que du quotidien et que la réalité de Dieu dans nos vies est une place de choix. Dieu doit être notre préoccupation ultime, en quelque sorte, qui est au-dessus de toutes les autres et qui conditionne les autres. Notre Père, que ton règne vienne. Vouloir que le règne de Dieu vienne sur la terre et dans nos vies, c'est tout simplement souhaiter que Dieu soit de plus en plus reconnu comme roi, qu'il soit respecté, écouté, obéi, et que ce soit lui qui gouverne effectivement la plus grande partie possible du monde. Or, Dieu respectant la liberté humaine, cela dépend de l'être humain. Il dépend de nous que nous sachions reconnaître Dieu pour notre roi, pour notre maître, pour notre souverain, et il ne s'agit pas d'attendre passivement qu'il établisse son royaume contre la volonté des hommes. Comme dans toutes les prières, cette demande faite à Dieu n'a donc pas pour objectif de vouloir que Dieu fasse à notre place ce qui nous revient. La prière est une demande qui nous engage, une demande que nous exprimons dans la foi et la confiance sincère en Dieu, parce que nous savons que nous avons besoin de son aide et de sa force pour qu'il nous aide à vouloir vraiment, à accomplir le mieux possible ce dont il est question. Notre Père, que ta volonté soit faite. Certains pourraient voir dans cette demande une sorte de fatalisme. Mais ce dont il est question ici, c'est bien de comprendre que tout ce qui arrive n'est pas précisément la volonté de Dieu. Et là, on comprend que le mal est ce qui s'écarte du projet divin, ce qui passe à côté. Dieu, ainsi, est à l'œuvre pour que progressivement, ce soit donc sa volonté qui soit faite, son plan créateur qui s'accomplisse. Ainsi, le rôle essentiel de l'homme, et a fortiori celui du chrétien, sa vocation, et donc d'accepter de prendre part à la création de Dieu en disant « Seigneur, que je sois capable d'accomplir ta volonté dans ma vie, sur cette terre, et dans la mienne. » Oui, cette demande, comme toute prière, je le répète, nous engage nous aussi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel, je l'ai dit, c'est le monde spirituel. Le domaine de Dieu. Dans le domaine du terrestre, de nombreux événements arrivent qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Le mieux que nous puissions faire est de mettre notre propre capacité d'action dans ce monde au service de la volonté de Dieu pour que ce monde terrestre, et d'abord ce monde autour de nous, dans nos vies d'abord et autour de nous, puisse devenir un peu plus à l'image du ciel, qui est le seul lieu où Dieu règne véritablement et totalement. Cela dit, mes amis, on pourrait s'étonner que les demandes d'aide de Dieu pour nous viennent après les 3 grands objectifs exposés dans les 3 premières demandes que nous venons d'évoquer. Mais c'est justement pour demander l'aide de Dieu qu'il nous faut déjà savoir dans quel but, pour quel objectif. Il faut d'abord se sentir appelé par Dieu et vouloir œuvrer pour lui, et ensuite seulement nous pouvons mesurer notre faiblesse et vouloir y parvenir avec son aide. Alors, Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. De quel pain s'agit-il? Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas entendre parler du pain dans la bouche de Jésus sans que l'on pense aussi au pain spirituel dont il est question à plusieurs reprises dans sa bouche. Par exemple, quand Jésus dit, c'est en Jean chapitre 6, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est bien de ce pain-là que nous avons besoin. Le pain spirituel, autrement dit de la parole du Christ, de sa présence, de sa personne même, qui peut nous nourrir pour l'éternité et nous donner la force qui vient de Dieu, comme le pain matériel et les aliments le font pour notre corps. Eh bien, le terme grec utilisé dans le « Notre Père » va aussi dans ce sens. Pain de ce jour, épiousion en grec, pourrait se traduire aussi par l'expression notre pain super substantiel, c'est-à-dire qui se trouve au-dessus de la substance matérielle des choses. Et l'on demande ainsi à Dieu de nous donner ce qui nous est indispensable, dont nous avons besoin pour avancer sur notre route, nous nourrir quotidiennement de sa présence, de son esprit, de sa force et de sa parole. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il n'est pas étonnant que la prière modèle donnée par Jésus fasse mention du pardon, c'est le point essentiel de sa prédication et de la bonne nouvelle. Ces deux dimensions sont dans le message de Jésus. C'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons pardonner et que nous pouvons aimer. C'est parce qu'il nous a pardonné que nous pouvons aimer et pardonner à notre tour. Pardonner et être pardonné, c'est finalement croire et vouloir vivre le pardon dans toutes ses dimensions. Maintenant, notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. La lettre de l'apôtre Jacques nous met à ce propos en garde que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car, précise Jacques, Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Cependant, le fait que Dieu puisse mettre à l'épreuve est aussi présent dans la Bible. Cela s'explique parce que le mot grec utilisé ici dans le Notre Père peut en effet être traduit par tentation ou par épreuve. Alors dans le Notre Père, il faut donc bien comprendre, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve ou fait que nous ne soyons pas introduits dans l'épreuve comme enfermés dans une prison. Et cela, nous pouvons le demander à Dieu afin qu'il nous donne, qu'il nous ouvre une porte de sortie, qu'il nous libère, qu'il ouvre devant nous un passage. Comme il l'avait fait en libérant le peuple d'Égypte, lui ayant ouvert alors un passage dans la mer Rouge. Notre Père, délivre-nous du mal. Et cette demande va dans le sens de la précédente et ajoute quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas de demander qu'il ne nous arrive pas de mal, mais que Dieu nous en libère. La question n'est pas là de savoir si oui ou non Dieu peut ou ne veut pas éviter l'épreuve à l'être humain, mais d'avoir l'intime conviction que Dieu peut nous libérer du mal, de ce mal qui nous arrive. Et puis, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Eh bien, cette conclusion du Notre Père s'appelle la doxologie. C'est un mot grec qui signifie la gloire, puisqu'elle rend gloire à Dieu. Les exégètes du Nouveau Testament sont unanimes pour dire qu'elle a été ajoutée plus tard, parce que du temps de Jésus, les Juifs et les premiers chrétiens avaient l'habitude de conclure automatiquement, pourrais-je dire, leur prière par une doxologie de ce type. Et celle-ci, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Cette doxologie s'est imposée dans la pratique des églises chrétiennes. N'était-il pas évident, je vous le demande, que la prière par excellence, prière modèle, se termine sur autre chose que sur des demandes? Oui, louange, reconnaissance, affirmation de confiance, c'est aussi cela la prière. Voilà, mes amis, j'en arrive à ma conclusion. Bien que l'intelligence artificielle soit un outil puissant qui mérite d'être exploré, affiné et utilisé avec sagesse pour le bien de chaque être humain, j'insiste, la prière du chrétien demeure inégalée par ses dimensions spirituelles, émotionnelles et communautaires. La prière nous relie à Dieu notre Père, qui nous offre du réconfort, qui unit la communauté et qui aide à naviguer à travers les défis de la vie. C'est vrai, l'intelligence artificielle peut analyser et fournir des réponses basées sur des données enregistrées dans d'immenses bases de données, ne pourra jamais remplacer le contact humain véritable, la relation spirituelle et l'expérience de foi que la prière offre aux chrétiens. Dans une époque de complexité technologique, cet aspect fondamental de la vie chrétienne, la prière doit être encouragée et cultivée, car c'est elle qui exprime le mieux notre quête de trouver en Jésus-Christ notre plénitude. La prière est communion avec Dieu et union avec lui. La prière est un élan vers Dieu, un échange d'amour qui nous fait vivre. Mes amis, soyez bénis. Amen.